liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 43, année 2015, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc. Eh bien, parle-nous du sommaire.
Donc, classiquement, cette catégorie, des enchères inversées, l'innovation dans le libre, l'immunité logicielle, la loi Valter, les DevOps, Adopi et le retour d'Eric Valter, et la consultation sur la loi numérique, on revient dessus.
Numérama, des enchères inversées pour de l'open source public, un article de Guillaume Champeau. Donc tout ça se passe aux États-Unis.
Ouais, et c'est assez bizarre d'ailleurs ce qui est en train de se passer là-bas, j'ai pas trop compris pourquoi ils voulaient mettre ça en place, c'est étonnant.
Donc c'est des enchères inversées qui sont proposées par l'administration américaine, au sens large, et en gros, pour les choses qui sont à moins de 3 500 $ en informatique, eh bien ils proposent de les mettre à disposition sur Internet, et qui le veut peut se proposer de travailler dessus pour moins de 3 500 $, ils prendront les moins chers.
Voilà, donc du coup, ça, pour moi, ça va être un peu la course à celui qui va avoir le tarif le plus faible et donc généralement la qualité la moins élevée. Et ça peut donner des trucs un peu bizarres en sortie avec des personnes qui vont venir, qui ont faim, qui vont vouloir manger, qui vont arriver et qui vont faire n'importe quoi derrière.
Voilà, donc l'administration qui fait ça, c'est une sorte d'organisme à l'intérieur du gouvernement américain qui vise à développer des applications libres pour justement réduire les coûts, mutualiser les besoins, etc. Et plutôt que de développer tout par des développeurs qu'ils ont embauchés, l'idée, voilà, c'est au moins sur les petites parties. Hein, 3 500 $, on peut estimer que c'est une dizaine de jours de travail, vont potentiellement passer par une externalisation. Effectivement, ce choix d'enchère descendante, il est un peu bizarre parce que on sait que voilà, pas cher, c'est pas nécessairement bien, et qu'à un moment, il faut nécessairement mettre un petit peu d'argent.
Oui, mais en même temps, c'est un choix qui est facile. Hein, tu vois, tu fais des listes, et puis bah, le gars qui se propose le moins cher, bah, il l'a automatiquement. Et 10 jours plus tard, puisqu'il y a un délai de 10 jours qui est inclus dans cette organisation, 10 jours plus tard, tu vois le résultat, ça passe ou ça passe pas. J'imagine, si ça passe pas, tu vas peut-être te faire blacklister, ils passeront à quelqu'un d'autre, paf, ils reprennent les enchères inversées avec quelqu'un d'autre.
Voilà, on se dit aussi que ça peut ouvrir la porte à la offshoreisation, c'est-à-dire que ce soit des travailleurs étrangers dans des pays où on est payé pas cher, parce que final, sur ces tarifs-là, eux pourront baisser beaucoup plus que des développeurs locaux. Donc bon, c'est un petit peu bizarre de voir un État se lancer dans ce genre de procédure.
Bah, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est le côté développement en libre, parce que ce qu'ils vont développer une fois, ce sera réutilisable par tout le monde, hein, pas qu'aux États-Unis. Donc il y a un côté un peu fun quand même.
Informatique News, l'open source, l'innovation et la sécurité par la transparence, un article de la rédaction.
Comme on l'entend depuis très longtemps et comme on le dit dans la revue de presse, bah effectivement, l'open source et le libre permettent plus de sécurité, permettent de plus de transparence, permettent d'être plus efficace, etc. Et donc, bah, cet article-là refait encore un peu la synthèse de tout ça.
C'est largement une tribune d'un dirigeant, donc Ismet Geri, je sais pas si on prononce Geri, de Forge Rock. Je ne connaissais pas, et a priori, bah, il pousse très fort en disant qu'en gros, toutes les entreprises largement, et y compris les GAFAM, hein, Google, Amazon et tout ça, utilisent et se mettent au logiciel libre d'une manière ou d'une autre. On est en retard si on ne se met pas au logiciel libre. Donc il y a un état de fait qui est quand même plaisant pour nous, mais il met en avant le fait qu'il y a besoin d'entreprises pour organiser tout ça, pour mettre une surcouche, pour fiabiliser les développements, s'assurer de la fiabilité du suivi. Donc ils vont un peu sa soupe, hein, clairement, mais c'est un truc qui va dans le bon sens puisque bah, il met vraiment en avant le logiciel libre.
Oui, mais il apporte pas vraiment d'arguments nouveaux. Et puis un autre truc, c'est que sa photo, elle est mal compressée en JPEG. Et ça, moi, ça me heurte les yeux. Mais bon, voilà, c'est un peu du détail. Internetactu.net, condamné par le code, l'immunité logicielle en question, un article de Hubert Guillot. Alors ça, c'est un article beaucoup plus intéressant que le précédent, qui a un peu du réchauffé quand même, même si le propos est intéressant, enfin en tout cas appréciable. Donc là, non, là on est vraiment dans Code ISLO, c'est vraiment un thème qui a été mis en avant il y a très longtemps par quelqu'un d'assez brillant, Laurence Lessig, si ma mémoire est bonne. Et là, on a plein d'exemples qui vont, voilà, qui alimentent cette idée-là. Et de quoi s'agit-il ce coup-ci?
Bah, d'une vie, hein, la vie de Martel Chubbs, qui est accusé de meurtre, et a priori, bien, il a été inculpé et je pense qu'il a été condamné parce que son ADN correspond à un ADN trouvé sur le lieu du crime. Et ben voilà, c'est suffisant globalement pour être accusé et jugé coupable.
Voilà, donc lui, bien sûr, il dit que c'est pas lui, qu'il est innocent dans cette affaire-là, et en particulier, il a demandé à ce que l'entreprise qui a développé le logiciel qui permet le recoupement des empreintes ADN publie leur code, enfin en tout cas, le donne l'accès
pour toute la procédure de bout en bout.
Voilà, pour qu'on puisse vraiment vérifier qu'il n'y a pas de problème. problème, il n'y a pas d'erreur, que c'est pas un bug à l'intérieur. Et la boîte a refusé au prétexte, bah pareil, propriété intellectuelle, etc., etc.
C'est la boîte, donc, ou même le tribunal.
Le tribunal a dit non, voilà, pour des motifs commerciaux ou propriété intellectuelle, brevet ou autre, et ben on lui a refusé le droit de savoir pourquoi il avait été condamné.
C'est d'autant plus sensible que son affaire remonte à 1977, donc c'est il y a super longtemps. Donc je suppose évidemment que les preuves matérielles doivent plus exister nécessairement, qu'elles ont été numérisées à un moment ou à un autre, et donc on se repose entièrement sur le logiciel. Et si ce logiciel n'est pas auditable, si on peut pas le tester, si on peut pas voir s'il est fiable, effectivement, il y a la vie potentiellement de gens qui va être suspendue aux erreurs possibles, parce que voilà, tous les informaticiens font des bugs de ce logiciel. Non,
même pas vrai. Là, franchement, c'est négatif ce que tu dis.
Mais... bon, tous les informaticiens sauf toi, Manu, bien sûr.
Et puis Nicolas. Voyons. Non, non, mais nonobstant les bugs, ça n'empêche, on veut pouvoir vérifier tout simplement. Il y a des vies qui sont en jeu. Moi, ça me paraît logique, et c'est ce qu'ils en disent d'un point de vue du tribunal, d'un point de vue légal. Normalement, ils ont une procédure accusatoire où il faut pouvoir accuser et aussi défendre avec les mêmes niveaux de preuve et les mêmes niveaux d'expertise. Et donc, même si le gars lui-même est pas capable d'aller creuser dans le code, hein, on lui demande pas ça, il peut faire appel, bah, comme le fait l'accusation, à des experts qui vont éventuellement décortiquer, qui vont apprendre, qui vont comprendre et qui seront capables peut-être de déduire des défauts, peut-être une orientation du logiciel qui pourrait montrer qu'en fait il y avait erreur et ce n'est pas lui. Alors, c'est probablement lui le meurtrier, faut pas rigoler là-dessus, mais ça n'empêche, c'est intéressant de dire on veut avoir accès à ce qui nous accuse. Ça me paraît la base du système légal.
Ouais, parce que bon, il y a eu d'autres affaires hein, là-dessus, on l'a vu aussi avec le Volkswagen en fait, qui était cité aussi dans l'article. On a truqué un logiciel pour truquer des chiffres et passer des qualifications. Bah là, c'est pareil, on peut très bien imaginer qu'il y a un bug à l'intérieur et qu'il y a un logiciel qui va condamner quelqu'un et on va lui dire bah non, tu es condamné parce que t'es condamné sans avoir de preuve, de justification, et c'est très très mauvais pour au niveau justice. Puisqu'on n'a aucun débat contradictoire ou quoi que ce soit. Donc on voit de plus en plus ces problèmes-là arriver parce qu'on est de plus en plus contrôlé par les ordinateurs. On a le code des impôts, par exemple, c'est du logiciel, les affectations
des... Le code des impôts n'est pas du logiciel, c'est le code des impôts. Mais justement...
Oui, enfin, le code, le logiciel qui permet de calculer l'application des impôts.
C'est un simulateur. Voilà. Justement, c'est là que c'est intéressant et c'est là que la réaction des services de l'État français qui ne veulent pas distribuer leur code est intéressante parce qu'ils disent si on distribue le code, en gros, on donne une interprétation univoque de la loi et on ne sait pas comment faire derrière parce que potentiellement un tribunal ne sera pas d'accord avec nous. Et du coup ça soulève des tas de questions. Mais en même temps ça peut jouer dans les deux sens parce que pour moi il y a plein de règlements qui sont très compliqués à interpréter. Enfin le code du travail par exemple est un truc qui est très négocié entre des partenaires sociaux et qui souvent font des textes super compliqués à interpréter ou avec beaucoup d'ambiguïté. Et c'est aussi beaucoup de perte de temps. Donc ça joue dans les deux sens. Hein. Il y a du danger parce qu'on ne contrôle pas. Mais il y a également potentiellement quelque chose de vachement intéressant qui permettrait de simplifier beaucoup beaucoup de choses dans des organisations et dans la société.
Voilà, parce qu'entre un autre exemple on a aussi l'affectation des enfants dans les écoles. Voilà, il y a plein de choses qui commencent à nous... le code ISLO, aujourd'hui, c'est le code qui nous gouverne, et donc c'est très important qu'on puisse regarder comment ça marche à l'intérieur.
Next Impact, loi Valter sur l'open data, de gros recul au Sénat, un article de Xavier Berne.
Et c'est largement une continuation, puisque l'open data, ça va dans le même sens. Nous, citoyens, nous demandons, et l'État, dans une certaine mesure, nous permet d'accéder aux données que l'administration fournit, que les infrastructures gérées par l'administration utilisent ou produisent. Et tout cet open data, c'est au cœur du débat du logiciel libre. Et bien là, il y a une loi intéressante, la loi Valter, je n'avais pas suivi, qui est en train de passer au Sénat.
Voilà.
Donc la loi Valter... Attention, c'est Valter avec un V. Qui n'a rien à voir avec Eric Walter, dont on va parler tout à l'heure.
Voilà, donc la loi Walter était normalement une bonne avancée dans le terme de l'open data.
Au début,
c'était un projet de loi.
Et en fait, il disait voilà, tout ce qui est de données publiques, données scientifiques publiques ou autres, on les publie, on les laisse accessibles
gratuitement
à qui veut s'en servir
sous
et autres.
Sous des formats utilisables, etc.
Voilà, formats utilisables. Donc vraiment, quelque chose qui était vraiment très bien pour nous.
A priori, ça inclut l'IGN, Météo France, les choses comme ça, les horaires de la SNCF.
Même le CERN, la SNCF, la RATP.
Dans les transports, ils avaient déjà négocié le fait de pouvoir faire payer les données. Ils avaient un temps d'avance sur les autres. Et là, effectivement, le Sénat, gros coup de bélier, ils ont dit « Ah non, non, on va pas mettre trop de contraintes sur nos administrations, faut pas déconner non plus. »
Voilà, donc ils ont réintégré via des amendements, des pilés d'exceptions à tout ça, en remettant du paiement, en disant « Vous avez le droit de vous en servir, mais pas trop, ou sous des licences qui sont du coup pas libres, vous avez pas le droit d'en faire exactement ce que vous voulez. »
Et puis donc, on n'est pas vraiment obligé de vous les donner dans un format vraiment propre, tout ça.
En gros, voilà, est-ce que cette loi va vraiment changer les choses ou est-ce qu'on va juste se retrouver au statu quo de départ?
Bon, on verra comment bien. Ça passe au niveau du Parlement, hein, puisque de toute façon c'est eux qui ont le dernier mot, donc voilà. Les Échos, DevOps consacre les bénéfices de l'open source, un article de Karine Bro-Henault.
Et ben là, un petit loupé de Manu qui nous met un petit article sous paywall.
Ben oui, mais je savais pas, hein, et ça n'empêche que l'article était intéressant. Parler des DevOps, moi je trouvais ça assez kiffant, mais malheureusement, Les Échos, ils ont, je crois que c'est 7 articles, on est limité à 7 articles à la lecture, et je les ai dépassés sur notre ordi, donc si vous allez dessus, vous pourrez peut-être le voir. Ça n'empêche qu'il est intéressant, DevOps, voilà. Nicolas, toi t'aimes bien.
Ben moi j'adore ça, hein. Donc DevOps en fait c'est développement et opérationnel, et donc en fait le but, c'est de gérer ces machines comme on gère du code, donc avec plein de déploiements dans tous les coins, des scripts, l'automatisation à fond. Donc voilà, cet article est intéressant, mais eh ben, vous pouvez pas le lire.
Ça n'empêche, il est intéressant. Moi, j'ai adoré le concept parce que ça montre que dans le logiciel libre, puisque le DevOps, c'est clairement une extension du logiciel libre, comme l'agilité. Globalement, ça vient des mêmes personnes. Et le DevOps, c'est une innovation assez forte qui vient de notre communauté et qui s'implante partout dans les entreprises globalement. Si vous ne faites pas du DevOps, c'est que vous êtes en retard.
Voilà, donc un truc assez technique. On peut le lire puisqu'on a droit à cette lecture, hein, cet article. Tout le monde n'est pas Manu, heureusement. Donc voilà, bon. Next Impact, Adopi, la justice ordonne le retour d'Eric Walter, un article de Marc Ress. Donc là...
C'est épique.
Walter avec un W.
Il était parti. Donc.
Alors, il n'est pas parti, il s'est clairement fait virer.
Il s'est fait bien virer. Bien
c'est
comme...
moche, ouais. Franchement, mais qu'est-ce qu'il avait pu faire pour cela, voyons.
Ouais, bah justement, son licenciement avait surpris un peu tout le monde. Ça avait été annoncé comme ça, cet été, je crois. Voilà, de but en blanc, voilà, il a été supprimé des organigrammes et autres, donc il s'est fait lourder bien violemment. Et donc, il avait demandé à un tribunal de dire de reconnaître que c'était un licenciement.
Voilà, c'est une procédure en référé.
Procédure en référé, donc il n'y a pas de jugement encore de ce truc-là, mais en tout cas, c'est suspensif pour le moment. Donc il retrouve son poste, donc l'ambiance va être terrible.
Ça va être beau, hein, ça, franchement, retrouver ça va être ton chef énorme. Qui vient de se faire virer un peu voilà. Avant, ça va être génial.
Et en fait, le juge considère que l'Adopi l'avait encensé dans tout son travail et toute son action, et du coup de dire de le licencier pour des motifs d'incompétence, c'était un peu gros. Et donc il devait réintégrer son poste, et que maintenant ils allaient juger est-ce qu'il était réellement incompétent ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé en interne.
Donc l'article explique déjà un peu les bruits de couloir. Il semblerait que ce soit des guéguerres internes et des choses comme ça.
Belle bataille
des problèmes de budget. Hein, globalement, ils ont un budget super serré maintenant à Adopi.
Voilà, donc avec le salaire d'Eric Walter en moins, peut-être qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Bon, en fait, nous, on rigole bien, quoi. L'usine digitale exprimait les 21 330 participants à la consultation sur la loi numérique. Un article d'Aurélie Barbeau.
Et globalement, une flopée d'articles. J'ai bossé, c'est quasiment le plus gros de la revue de presse. Il y a plein d'articles sur cette consultation parce que c'est un truc qui est original. Écrire une loi en demandant aux citoyens français de participer, c'est du jamais vu.
Voilà, puis le résultat surtout est pas mal à notre avantage parce que sur les 10 articles qui ont été le plus commentés et approuvés par les internautes, il y a au moins 5 ou 6 articles qui concernent le logiciel libre avec la priorité dans l'éducation nationale, la neutralité du net, enfin il y a vraiment pas mal d'articles sur le sujet là, l'ouverture du code des impôts aussi.
Ça c'est notamment
voilà,
l'idée de un logiciel pondu par l'État soit considéré comme un document administratif, c'est quelque chose qui a été porté par l'April. On est pas mal cité dans les articles. Moi, je note quand même une remarque qui est intéressante, hein, je crois, de Regard Citoyen, il me semble, sur le fait qu'il y a des sujets qui sont abordés, mais qui, du coup, seront plutôt couverts par la loi sur l'open data qui est en cours de discussion. Du coup, il y a un peu de télescopage entre ce qui se discute déjà à l'Assemblée et les propositions qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce truc a l'avantage d'exister. C'est un bilan, hein, maintenant que c'est fermé. Et moi, je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner.
Or, dans le bilan, ils ont l'air de remonter le fait qu'il y a des entreprises qui sont un peu découvertes, qui ont montré leurs intérêts et qui ont été votées, en général contre les articles proposés par les citoyens. Il y a une sorte de dichotomie entre les deux. Hein. Certains ayants droit, notamment, ils n'aiment pas les idées d'ouvrir bien le droit de prendre des photos des bâtiments publics. Ça leur plaît pas. Et donc, c'était des amendements qui ont été pas mal discutés. Moi, je trouve ça un peu délirant, mais en tout cas, c'est transparent.
Ça fait référence à la liberté de panorama. C'est pas nécessairement les bâtiments publics, c'est tous les bâtiments, puisqu'aujourd'hui, le droit d'auteur s'applique à des bâtiments qui ont été faits par des architectes qui sont pas morts depuis plus de 70 ans, etc. Du coup, on n'a pas le droit de publier des photos de bâtiments qui sont dans la rue et que, bon, effectivement, c'est complètement absurde. À partir du moment où on fait un bâtiment, c'est normal qu'il soit représenté, ça fait partie du paysage. Ça, c'est l'association Wikimedia qui a porté notamment cette proposition. Voilà, il y a plusieurs éléments là-dessus. Effectivement, bon, c'était un catalyseur. Ce qui est intéressant, c'est quand même la société civile a été beaucoup plus active et beaucoup plus force de proposition que les lobbies.
Les lobbies, on les a surtout vus sur la fin, en fait. Au début, ils n'étaient pas très actifs. Je pense qu'ils s'attendaient pas. Ils ont dû se dire que ça ne va pas marcher. Puis en fait, les citoyens se sont bien mobilisés. Et du coup, les deux derniers jours, les lobbies ont fait leur travail de lobbying. Ça a voté assez massivement. Il y en a même un qui est passé en premier en se réveillant juste le vendredi soir.
Oh, ça, c'était un truc un peu.
Voilà, sur les jeux vidéo. Forcément, ils ont touché leur communauté. Et donc, voilà. Et on a vu enfin les lobbies à l'action, au public. public et c'est assez marrant. On pourra même analyser les données justement et regarder où est-ce qu'il y a eu du lobbying ou pas.
On a fait le tour.
On a fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.